Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Merci de votre présence, de votre fidélité, de votre intérêt pour l'histoire de l'art. Ce soir, nous accueillons M. Mathieu Daldic, ancien élève de l'École des Chartes et ensuite. Il a poursuivi ses études en histoire de l'art à l'Université de Picardie, Jules Verne, à Amiens. Docteur en histoire de l'art, il a soutenu sa thèse sur la commande artistique de l'amiral Mallet de Ganville, 1444-1516. Nommé conservateur, il a tout d'abord été conservateur des musées châteaux nationaux au ministère de la Culture et depuis 2015, conservateur au musée Condé de Chantilly, c'est bien ça. Dans ce cadre, il a organisé, été commissaire de plusieurs expositions, le Grand Condé, rival de Louis XIV en 2015, Bellini, Michel-Ange Parmesan, l'éveil de la, du dessin à la Renaissance et une autre exposition sur le dessin intitulée « Les heures italiennes ». Cette année, tout le monde le sait, n'est-ce pas, c'est l'année Raphaël. Plusieurs expositions ont été organisées dans divers musées, divers lieux, pour la commémoration du 500e anniversaire de la mort de ce grand peintre de la Renaissance, dont au musée Condé de Chantilly, d'où la conférence de ce soir avec Mathieu Daldic, qui va nous parler de Divin Raphaël à propos des peintures et des dessins du musée Condé de Chantilly. Il me reste, Mathieu, à vous remercier infiniment d'être ici ce soir. Vous aviez un très bel article sur Sud-Ouest que tout le monde, que tout Bordeaux a lu. Voilà. Merci. Et n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones, s'il vous plaît, si vous ne l'avez déjà fait.
Alors, bonsoir, vous m'entendez bien ? Alors, en effet, merci beaucoup pour cette invitation, Marie-Claire. Je suis toujours très impressionné par la foule et l'intérêt que Bordeaux et les Bordelais ont pour l'histoire de l'art et pour les grands artistes. C'est vrai que cette année, en fait, c'est un anniversaire particulier, celui peut-être du plus grand artiste de la Renaissance, avec Léonard de Vinci. On a célébré Léonard de Vinci l'année dernière, en 2019, en fêtant le 500e anniversaire de sa mort. Et cette année, nous fêtons, commémorons la mort de Raphaël, qui est né en 1483 et qui est mort en 1520, donc au terme d'une carrière assez courte, hein, il avait 37 ans, mais fulgurante. Alors, on pourrait parler de Raphaël pendant des jours et des jours. Ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est sa carrière à travers une collection très particulière qui est celle de Chantilly. Vous savez peut-être que Chantilly a la chance de conserver la deuxième plus grande collection d'œuvres de Raphaël en France, que ce soit des dessins ou des tableaux, après le musée du Louvre. Alors un petit rappel, parce que je suis toujours là pour faire un peu de publicité. Voilà, on est à 40 km au nord de Paris, dans un environnement extraordinaire, au milieu de 6700 hectares de forêts et de terres. Qui forme le domaine de Chantilly, un château qui date du Moyen-Âge, qui a été remanié à la Renaissance, au XVIIe, au XVIIIe siècle, qui a appartenu à plusieurs familles, les Montmorency pendant la Renaissance, les princes de Condé, les cousins des rois du XVIIe jusqu'au XIXe siècle. C'est eux qui ont commandé notamment les grands parterres à André le Nôtre, le grand canal qui est plus grand que celui de Versailles, qui ont commandé aussi, ces princes de Condé, des appartements somptueux, qui n'ont rien envié non plus à Versailles. Ici, vous avez le bureau du prince de Condé, qui s'appelait Louis-Henri, qui était premier ministre de Louis XV, qui était un grand commandeur, qui a notamment aussi commandé les singeries de Chantilly, qui sont assez célèbres. Ici, vous avez certains panneaux, hein, qui datent de 1737, qui montrent des singes et des hommes en train d'interagir dans un environnement assez joyeux et dans une mode pour la chinoiserie. Chantilly, c'est aussi des grandes écuries, les plus grandes écuries du monde, créées en 1719. On a fêté les 300 ans des grandes écuries l'année dernière. Des écuries qui sont plus grandes que le château lui-même, Hein, souvent, d'ailleurs, les visiteurs pensent trouver le château en entrant dans les grandes écuries. Des écuries qui ont été bâties pour 240 chevaux. Hein, et dans l'objectif d'abriter des chevaux et des meutes de chasse, parce que Chantilly, c'est avant tout un établissement de chasse. Et puis, les jardins extraordinaires, et là, je vous montre le hameau des princes de Condé, qui date de 1774, et qui ont inspiré la reine Marie-Antoinette pour le hameau de la reine à Versailles. Alors, je vous emmène un peu loin, mais en fait, tout ce domaine, cette histoire, ce site, a échu en 1830 à un petit garçon qui s'appelait Henri d'Orléans, duc d'Aumale, cinquième fils du roi Louis-Philippe, qui est devenu l'homme le plus riche de France au XIXe siècle et un grand collectionneur. Et ce grand collectionneur avait un artiste fétiche, vous l'avez deviné, c'était Raphaël. Alors, il s'installe à Chantilly, il commande des appartements, et là je vous montre des appartements qu'on vient juste de restaurer, qu'on a réouvert l'année dernière, des appartements privés du duc d'Aumale, les seuls appartements princiers de la monarchie de Juillet conservés en France. Ici vous avez la chambre de la duchesse et à droite le bureau du duc d'Aumale. Vous voyez, c'est extraordinaire, c'est très coloré, et tout est conservé au château de Chantilly aussi, tous les meubles, tous les objets, tous les souvenirs. Et puis ce duc d'Aumale va reconstruire une grande partie du château de Chantilly qui avait été détruite à la Révolution, pour en faire une sorte de château de contes de fées sur l'eau. Hein, c'est aussi l'un des grands intérêts du château. Il est entouré d'eau. Et il va reconstruire ce château pour abriter ses collections, des collections qu'il a accumulées, notamment lorsqu'il était en exil en Angleterre, après la chute de la monarchie de Juillet, entre 1848 et 1871. Et va créer cette collection extraordinaire qui forme aujourd'hui la deuxième plus grande collection d'art ancien en France, après le musée du Louvre, avec tous les grands chefs-d'œuvre. Enfin, on en a déjà parlé en ces murs. Ici, je vous montre quelques images pour vous remettre dans l'ambiance. Alors, ce duc d'Aumale avait un peintre préféré, c'était Raphaël. On connaît, comment le sait-on ? Déjà, on a tous les agendas du duc d'Aumale et on voit que ce duc, qui était un grand duc voyageur, qui passait son temps sur les routes d'Europe, allait systématiquement dans les musées, dans les villes qu'il visitait, pour admirer les œuvres de Raphaël. Et là, je vais vous montrer un certain nombre de tableaux de Raphaël que le duc d'Aumale a vus et qu'il a commenté dans ses agendas, parce qu'il était finalement un historien d'art. Par exemple, ce qu'on sait, c'est que Raphaël est l'artiste le plus cité dans ses agendas. Il y a 21 occurrences dans ses agendas, alors qu'il ne parle que 11 fois de Michel-Ange et 7 fois de Léonard de Vinci. Il, évidemment, passait beaucoup de temps sur les routes, je vous le disais. Il passait notamment du temps en Allemagne, à Munich, et là, il a pu admirer la Madone Canigiani, à plusieurs reprises, notamment en 1864. Ensuite, il va y retourner en 1868. Là, un autre tableau qui est ici à gauche, qui était anciennement attribué à Raphaël, qui ne l'est plus, qui est une Sainte-Cécile, d'après la Sainte-Cécile qui est à Bologne, le tableau que vous voyez à droite. Donc voilà des tableaux qu'il a vus et qu'il a appréciés. Sa destination préférée était l'Italie. Le duc d'Aumale était italien par sa mère, la reine Marie-Amélie, et aussi par son épouse, Marie-Caroline, qui toutes les deux étant napolitaines. Et donc, il va beaucoup en Italie, et l'un de ses musées préférés, c'est le Palais Pitti à Florence. Et là, vous connaissez peut-être ce musée, il y a beaucoup de Raphaël. Donc, il a pu admirer la Madone à la chaise, que vous voyez ici, à plusieurs reprises, en 1869, en 1875, en 1883, etc. etc. La Madone du Grand-Duc, qui est un des grands chefs-d'œuvre du Palais Pitti de Raphaël, hein, des années florentines de Raphaël. On reviendra sur la carrière de Raphaël dans un instant. Il est allé aussi à Bologne. Vous avez l'Extase de Sainte-Cécile, qui est le grand chef-d'œuvre de la Pinacothèque de Bologne. Et puis, à Milan, il a admiré ce qu'on appelait le Sponsalicio, c'est-à-dire le mariage de la Vierge. C'est ce grand chef-d'œuvre de Raphaël qui est très proche d'un autre chef-d'œuvre du maître de Raphaël, le Pérugin. Et là aussi, on a toutes les dates. En Angleterre, au Royaume-Uni, hein, où le duc d'Aumale était en exil, il a admiré la Madone Bridgewater, la Madone au Palmier, et puis au Louvre, évidemment, un tableau qui était anciennement attribué à Raphaël et qui est maintenant donné à son élève Penny. Donc vous voyez des œuvres qu'il a pu admirer. Ce qui est intéressant, c'est que, et on va y revenir ensuite, c'est qu'il va acheter assez tôt, finalement, des grands chefs-d'œuvre de Raphaël pour faire comme les autres ou faire comme ses musées. Et là, bon, vous ne pouvez pas le lire, mais ce qui est intéressant, c'est que la presse en parle. En fait, le Duc d'Aumale est l'un des plus grands collectionneurs du 19e siècle, je vous l'ai dit, avec les Rothschild, par exemple. Et là, vous avez un extrait du New York Times de 1885, et on parle des Trois Grâces de Raphaël, qui est peut-être le tableau le plus célèbre de Chantilly, on va y revenir. Et on voit que le Duc d'Aumale a acheté pour 25 000 livres. Et c'est un des chefs-d'œuvre des joyaux d'Angleterre et qui quitte le pays. On voit déjà la presse qui s'inquiète, ce qu'on voit encore de nos jours, la fuite des chefs-d'œuvre à l'étranger. Et donc là, le New York Times parlait déjà de ça à cette époque. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai retrouvé cet almanach. C'est un almanach des années 1880 où on voit la liste des 50 tableaux les plus chers de l'époque. Alors, il n'y a pas encore le Salvator Mundi de Léonard de Vinci, vous savez, celui qui a fait des millions et des millions chez Christie's. Mais est-ce que vous me croyez sur parole, ce qu'on voit, c'est qu'il y a tous les tableaux les plus chers. Donc, vous avez Raphaël, vous avez Rembrandt, Franz Hals, Van Dyck. Ensuite, vous avez les maîtres du 19e siècle, vous avez Millet, etc. Et là, on voit à chaque fois les titres des tableaux et les nouveaux propriétaires. Et on voit que le Duc d'Aumale, ici avec les Trois Grâces, puis ensuite par la Madone d'Orléans, fait partie finalement des hommes qui ont acheté les tableaux les plus chers de leur temps, avec les Rothschild, avec la National Gallery de Londres, etc. Donc vraiment un des grands collectionneurs de tableaux, mais aussi de dessins. Il va acheter tout un lot de dessins très importants auprès d'un autre collectionneur de l'époque qui s'appelait Frédéric Rézé, qui était conservateur au Louvre, conservateur des dessins du Louvre. Et à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'on peut être conservateur et avoir une collection privée. Tantôt, on achète pour le musée, tantôt pour soi. Mais bon, à un moment donné, il a un peu d'ennui, ce Frédéric Rézé, et il vend sa collection privée et il la vend au Duc d'Aumale, qu'il achète en bloc pour une somme considérable pour cette époque. Il y a des tractations financières et il emporte pour 150 000 francs, ce qui vaut à plusieurs millions d'euros de nos jours. Ce qui fait que le Duc d'Aumale devient le collectionneur privé le plus important d'œuvres de Raphaël au XIXe siècle. Alors, quelles sont-elles ces œuvres? Et là, je vous propose de rentrer dans la carrière de Raphaël à travers les œuvres du Duc d'Aumale. À chaque fois que vous aurez un écran comme ça, bleu, ce sont des œuvres de Chantilly, parce que je vous ai mis d'autres œuvres de comparaison. Alors, si on commence la carrière de Raphaël, vous savez, il est né à Urbino en 1483. Urbino, on est dans la Marche, donc près de la côte adriatique, au nord de Florence. C'est un grand centre humaniste et de la Renaissance. Vous avez les ducs de Montfeltre, qui sont des grands mécènes, qui font appel à toutes les ressources artistiques de leur temps, qui font appel aussi, sont des grands collectionneurs d'art flamand. Et vous avez à cette cour le père de Raphaël, qui s'appelle Giovanni Santi, qui est le peintre de cette cour, un peintre pas très moderne, à vrai dire, mais qui a un certain succès. Et en fait, Raphaël va être l'élève de son père, avant tout. Et ce qu'on lit souvent, c'est que Raphaël a été l'élève d'un maître qui s'appelle le Pérugin, Perugino, qui est un maître originaire de Pérouse, qui est peut-être l'un des artistes les plus qui a le plus de succès au début du XVIe siècle, qui a travaillé à la chapelle Sixtine notamment. Mais en fait, on n'est pas sûr que Raphaël ait été son élève. Il a fréquenté son atelier, pour sûr, à partir de 1502-1504. Il a eu accès à ses dessins, on va y revenir, mais il n'a sans doute pas été son élève, au sens juridique du terme. Et ça, ce sont des recherches récentes. En fait, Raphaël est avant tout l'élève de son père. Donc, un père qui a détecté très vite son talent, un talent précoce. Raphaël, par exemple, lorsqu'il dessine ce dessin, il a 17 ans. À 17 ans, il a déjà des grandes commandes. Et très vite, et c'est Vasari, le grand historien de l'art du XVIe siècle, qui en parle, très vite, le père de Raphaël va l'envoyer auprès du Pérugin, Perugino, pour qu'il se perfectionne dans son art. Alors l'art de Raphaël, du jeune Raphaël, c'est celui que vous avez à l'écran. Ici, c'est un grand dessin qu'on appelle un carton. Qu'est-ce que c'est un carton? C'est un dessin qui a la taille de l'œuvre définitive, qui est piqué. Vous avez des trous d'aiguille tout autour des traits principaux qui permettaient de faire passer de la poudre de carbone à travers ces petits trous pour reporter la composition sur une fresque ou un tableau. C'est une sorte de calque, de poncif. Donc ici, c'est un carton pour un jeune moine en train de lire. Malheureusement, on ne sait pas quel moine précisément. Ce qu'on voit, c'est que les mains sont un peu disproportionnées. Et donc, c'est-à-dire qu'on met l'accent sur le livre, sur le geste de lecture. Et par contre, vous avez un moine assez monumental, très serein, avec un visage très harmonieux, des formes assez géométriques. Hein, vous avez l'ovale du visage. Un carton pour une œuvre qu'on ne conserve pas, peut-être une fresque, peut-être un tableau, mais qui date du début de la carrière de Raphaël. Alors, comment le sait-on ? On procède par comparaison. On a ici, dans la collection de Dulwich, hein, au sud de Londres, un petit Saint-Antoine de Padoue de Raphaël qui date de ces années, tout début du XVIe siècle, et qui montre que vous avez le même type physique, vous voyez, avec la même petite bouche, le long nez, le même traitement de la lumière. Et donc, qui date, c'est l'une des premières commandes du Raphaël, un Raphaël qui est maître. On est ici vers 1504-1505, et ça vient d'un grand retable. Le dessin de chantier, on l'a comparé souvent aussi à cette fresque, qui est une fresque de Pérouse, pour le monastère des Camaldules, qui date de 1505, hein, là aussi. Et vous avez... Vous avez ici ces saints monastiques qui ont le même type physique, la même frontalité aussi que le dessin de Chantilly. Si on continue, il faut aussi comparer ce dessin avec les œuvres du Pérugin, c'est-à-dire le mentor de Raphaël, c'est pas le maître, mais le mentor de Raphaël dans ces années-là, 1504-1505. Et ici, vous avez le grand retable de San Pietro de Pérouse, qui date à peu près des années 1500. C'est au moment où Raphaël est vraiment en lien avec le Pérugin. Donc ce sont des tableaux qui sont maintenant dispersés dans les collections du monde entier. Mais vous avez ici, en bas, des saints ou des ermites dans des panneaux isolés qui font vraiment penser au dessin de Chantilly, dans la monumentalité, dans le cadrage. Donc ça permet de montrer que Raphaël, là, et dans ce dessin, est très proche de son maître, mais qu'il commence à avoir ses propres commandes. L'une des premières commandes d'ailleurs de Raphaël, c'est ce retable qui a été détruit et dont on conserve que des morceaux, le retable Baronchi, qui date de 1500. C'est la première fois qu'on a une commande pour Raphaël seul, Raphaël magister, c'est-à-dire maître, avec un paiement qui a eu lieu en 1503. Et donc ici, vous avez une sorte de copie ancienne de ce retable où vous aviez au centre, donc au-dessus, il y avait Dieu le Père avec la Vierge, etc. Et au centre, vous aviez un moine ici, c'est Saint Nicolas de Tolentino, qui ressemble au dessin de Chantilly. Avec ce que vous voyez, ce sont des types physiques très harmonieux, très géométriques, assez plats néanmoins, encore, vraiment dans la lignée du Pérugin. Si on continue les comparaisons, quelque chose qui date peut-être un peu après, parce que vous avez ici un dessin qui est conservé à Oxford, pardon, c'est pas Londres, un jeune moine, là aussi, vous avez la posture du cou qui est beaucoup moins frontale, plus dynamique. C'est une pierre noire sur papier, un traitement de la lumière et des ombres beaucoup plus subtil que le dessin de Chantilly. Ce qu'on voit aussi ici, un autre dessin de Raphaël qui est ici à Lille, un visage tourné vers la gauche, un traitement ici avec les rehauts de blanc de la lumière. Donc on est ici plutôt à partir de 1505, donc après le dessin de Chantilly. Mais par contre, ici, un autre dessin qui est à Oxford, qui est vraiment proche du dessin de Chantilly, avec ce traitement ovale, frontal, la petite ombre ici dans le nez, la petite bouche, le long nez d'ailleurs, proche de Chantilly, du dessin de Chantilly. Un autre dessin conservé à Chantilly, qui est un autre grand carton, donc vous avez compris, un dessin qui a la dimension définitive de l'œuvre, c'est la dernière étape dans le processus créatif, c'est des fragments d'un grand fragment d'un dessin qui représente des putis, c'est-à-dire des petits angelots qui sont en train de jouter, donc de faire une sorte de tournoi, juchés sur des sangliers. Alors c'est une scène profane, mythologique, et qui est vraiment dans l'atmosphère de la cour d'Urbino, qui était une cour donc des ducs de Montefeltre, où on aimait les scènes mythologiques un peu joyeuses comme cela. Il y avait des sculptures d'ailleurs dans le palais d'Urbino, dans cette veine et avec cette iconographie. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi là aussi ce carton a été créé. Est-ce que c'est une fresque ? Est-ce que c'est un tableau ? C'est vraisemblablement une fresque. On est ici légèrement après le jeune moine Lisant. On est autour de 1504 à peu près. Ce qui est intéressant là aussi, c'est de comparer le type physique des enfants et des putis. Et là, vous avez deux dessins qui sont au Louvre de ces années 1504-1505 avec ces putis un peu joufflus, espiègles, qui sont dans la veine des grands maîtres qu'a pu côtoyer Raphaël, le Pérugin, et un autre maître dont je n'ai pas encore parlé, qui s'appelle Pinturicchio. Pinturicchio, c'est au début du XVIe siècle aussi un artiste, dessinateur, mais aussi peintre, qui a le vent en poupe, qui décore les appartements des papes d'Alexandre Borgia à Rome, au Vatican, qui va travailler aussi à Sienne, dans la cathédrale, dans la Libreria Piccolomini, et qui va faire appel à Raphaël pour travailler avec lui, avec le jeune Raphaël, pour travailler avec lui pour les fresques. Et là, vous avez un dessin qui est à Chantilly, de Pinturicchio. Vous avez le même type physique, regardez, que dans le dessin de Raphaël, qui est aussi à Chantilly, avec les mêmes postures, avec les mêmes mentons en galoche, les fronts bombés, les ventres aussi un peu proéminents. Donc on est vraiment dans un Raphaël qui s'inspire des grands maîtres de son époque et puis qui s'inspire d'autres choses, et notamment d'Albrecht Dürer. Albrecht Dürer, on ne le présente plus. D'ailleurs, un petit teaser, en 2021, on fera une grande exposition à Chantilly sur Albrecht Dürer. Et ici, vous avez une gravure d'Albrecht Dürer, donc ce maître de la Renaissance allemande, hein, c'est le plus grand maître de la Renaissance allemande. Et les gravures de Dürer étaient dispersées dans l'Europe entière, et notamment en Italie, notamment les artistes ou les grands princes pouvaient en avoir. Et ici, vous avez l'enfant prodige d'Albrecht Dürer. Et qu'est-ce que vous voyez ici ? Les sangliers qui ont inspiré Raphaël pour son dessin à Chantilly. Alors, un peu de nouveauté aussi. Ici, vous avez un dessin qui est à Budapest, qui date à peu près des mêmes années, qui représente l'Assomption de la Vierge. Et ce dessin, il a un filigrane. Qu'est-ce que c'est un filigrane ? C'est une marque de fabrique au sein du papier qui permet de dater le papier. Et là, vous avez une vue de ce filigrane. Alors, vous me croyez sur parole, c'est un double cercle avec... Là, on n'a que la moitié du filigrane, un double cercle avec une croix de Saint-André, c'est-à-dire un X. Et, alors ça, c'est un scoop, parce que le catalogue sort qu'à partir du 7 mars pour l'exposition de Chantilly. Dans le dessin de Chantilly, vous avez, alors là aussi, vous ne voyez pas bien, mais en fait, vous avez ici, attendez, j'ai un autre, voilà. Vous avez ici, regardez, un double rond avec la croix de Saint-André. Et c'est un filigrane, c'est-à-dire une marque de fabrique dans l'usine de papier, hein, enfin dans la manufacture de papier, qui est attestée au tout début du XVIe siècle, vers ces années 1502-1504. Donc ça permet de dater, en plus des comparaisons stylistiques, ça permet de dater le papier et donc le dessin de Raphaël qui est à Chantilly. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez tous ces petits trous d'aiguille, vous voyez, qui permettaient de faire passer la poudre de carbone et de créer une sorte de calque, de poncif à partir du dessin. Alors, voilà les trois grâces. Ce fameux tableau qui a échappé aux Anglais et qui a été acheté par le duc d'Aumale, quelque chose qui est un tableau qui forme maintenant peut-être le tableau le plus célèbre de Chantilly. Un tableau qui date des mêmes années, hein, on date de 1502, 1504, un des chefs-d'œuvre réputés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le duc d'Aumale l'avait vu dès 1857 à Manchester dans une grande exposition. Et là, j'ai retrouvé une lettre où il dit que l'exposition est énorme, il y a 16 000 œuvres, rendez-vous compte. Et il retient un tableau, le duc d'Aumale, lorsqu'il va voir cette exposition, il retient les trois grâces et il qualifie ce dessin de bijou exquis. Et en fait, il va pouvoir l'acheter 18 ans plus tard, en 1885. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est persévérant. Ce tableau va former le chef-d'œuvre, l'un des chefs-d'œuvre de sa collection, pour 25 000 livres, donc, ce qui est quelque chose de considérable pour cette époque. Et donc, vous l'avez vu, le New York Times en a parlé, enfin, tout le monde était... c'était vraiment un très grand coup, hein, et ça a fait partie des tableaux, les 50 tableaux les plus chers achetés au XIXe siècle. Ce qui est intéressant, voilà, ça c'est les autres Raphaël, pardon, les plus chers de l'époque, qui ont été achetés par la National Gallery de Londres, la Madame Hansi Dei, et par un tableau anciennement de Raphaël, mais qui n'est plus du tout de Raphaël, et on ne sait même plus où il est, qui était le Cesare Borgia. Voilà, comme quoi, parfois, quand c'est très cher, ce n'est pas forcément aussi une très grande qualité. Le duc d'Aumale a commandé très vite à Froment-Meurice, une grande pointure, un grand orfèvre de l'époque, un cadre, ici en argent. Alors maintenant, on va expliquer ce tableau. Un petit tableau, il est grand comme ça, hein, un tableau mythologique, vraiment très, très précieux, qui est vraiment dans la veine de ce que pouvait faire le mentor de Raphaël à ce moment-là, notamment le Pérugin. Ici, c'est un tout petit tableau de ces années, autour de 1500, qui est aujourd'hui au Louvre et qui appartenait aux collections du roi Louis XII. Ici, c'est Apollon et Marsyas. Donc, petit tableau mythologique dans cette veine humaniste, très précieux. Ici, vous avez un paysage un peu à la flamande, donc très léché. Et c'est un petit tableau, celui de Raphaël, les Trois Grâces, qui a un pendant, qui forme une sorte de diptyque avec un autre tableau qui est aujourd'hui à la National Gallery de Londres, qui est une allégorie avec trois personnages, comme à Chantilly. Ici, c'est le tableau du songe du chevalier, avec deux allégories et ce chevalier qui est en train de dormir. Alors, on ne sait pas exactement comment ces deux tableaux fonctionnaient ensemble. On a pensé à un moment que c'était un recto et un verso. En fait, il ne semblerait pas vraiment lorsqu'on analyse le bois. On a pensé aussi que c'était des plats de reliure, c'est-à-dire deux tableaux qu'on aurait mis de part et d'autre d'un livre. On a pensé aussi peut-être que c'était un diptyque, en fait, tout simplement, avec des vertus féminines, les grâces, et des vertus masculines, celles que vous voyez là. À vrai dire, il y a beaucoup d'interprétations sur les trois grâces de Chantilly. Déjà, le modèle, quel est-il ? Le modèle, il est sans doute antique. Vous avez des statues sous l'Antiquité qui montrent les trois grâces avec le même mouvement, la grâce centrale de dos et puis ses bras qui s'entremêlent. Vous avez ici les trois grâces qui sont à Sienne, dans la Libreria Piccolomini, une librairie, une bibliothèque qui a été justement peinte à fresque par Raphaël. Et puis ici, vous avez un autre exemple qui vient de la collection Borghese, qui a pu voir Raphaël, qui est maintenant au Louvre avec ses trois grâces. Donc des statues antiques. Pardon. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi une médaille. Une médaille qu'a pu connaître Raphaël lorsqu'il a peint son chef-d'œuvre. Une médaille des années 1480 qui a été créée pour un mariage, pour le mariage de Giovanna degli Albizzi. Et ce que vous voyez au revers, ce sont ces fameuses trois grâces avec cette même position, ce même mouvement. Si on revient aux trois grâces de Chantilly, vous avez ici une image d'analyse qui a été menée au Centre de recherche et de restauration du Musée de France dans le sous-sol du Palais du Louvre, où on apprend plein de choses sur la réalisation de ce tableau. On voit notamment le dessin sous-jacent, c'est-à-dire le dessin préparatoire avant de peindre la composition. Par exemple, dans la grâce centrale, vous avez ici les fesses qui sont beaucoup plus hautes, qui sont des fesses masculines. Et en fait, ce qui montre qu'il y avait en fait ici un élève, un collaborateur, un garçon de l'atelier qui a posé. Et ensuite, on a féminisé ce corps masculin. Et puis, surtout, ce qu'on voit, c'est que les trois grâces à l'origine, en fait, il y avait une seule boule, et les autres grâces, en fait, avaient une position différente. C'est-à-dire que la grâce centrale posait sa main ici, sur l'épaule de sa comparse, et celle-ci avait sa main ici, vous devinez, vous voyez là, qui cachait son sexe. Et donc, il n'y avait qu'une seule boule. Et alors, pourquoi on est passé d'une boule à trois boules? Peut-être qu'à l'origine, c'était un jugement de Paris. Vous savez, dans la mythologie gréco-romaine, Paris a remis la pomme d'or à la plus belle des trois déesses entre Junon, Minerve et Vénus. Et donc, ça pouvait être Junon, Minerve et Vénus. Et puis, peut-être que soit Raphaël, soit son commanditaire ont changé d'idée et on dit, non, c'est plus finalement un jugement de Paris, ce sont les trois grâces, donc les trois vertus féminines. Et donc, on a mis trois boules. Et puis, vous savez peut-être que dans les armes des Médicis, il y a trois boules. Donc, peut-être que le commanditaire est un Médicis. Voilà. Donc, ça peut expliquer ce changement de partie, le fait qu'on est passé d'une boule à trois boules. Et donc, Raphaël ait changé et créé ses avant-bras ici, qui descendaient ou qui étaient ici, qui remontaient. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en créant cette composition à trois boules, en fait, Raphaël a créé une sorte de scène harmonieuse, parfaite, très équilibrée, comme il va en avoir l'habitude dans toute sa carrière à partir de ces années-là. On continue. À partir de 1508, Raphaël va, qui était à Urbino, qui travaillait ensuite à Sienne, à Pérouse, en Ombrie, donc vraiment dans le centre de l'Italie, à partir de 1507-1508, Raphaël va être un peu attiré, aimanté par le cœur en fusion de la Renaissance italienne, c'est-à-dire Florence. À Florence, à ce moment-là, il y a les plus grands maîtres, et notamment, en même moment, 1508, il y a les trois grands maîtres dans la même cité, donc rendez-vous compte, Raphaël, Michel-Ange et Léonard de Vinci. Et le jeune Raphaël, qui est beaucoup plus jeune que Léonard et Michel-Ange, va venir à Florence et va s'inspirer de leur art. En fait, Raphaël est aussi une sorte d'éponge qui va toujours être influencée, va assimiler les innovations artistiques, mais ne va pas être, comment dire, servile et va réinventer et réinventer son art sans cesse à partir de ces innovations. À Florence, il n'aura pas les grandes commandes. Les grandes commandes, elles vont être dévolues à Léonard et surtout à Michel-Ange, mais aussi à d'autres artistes, je pense à Fra Bartolomeo. Raphaël, peut-être volontairement, va se concentrer sur des commandes particulières pour continuer à perfectionner son art. Il est très jeune, il a 25 ans, hein. Et il va notamment se faire une spécialité, ce sont les Madones, donc les Vierges à l'enfant. Et ici, vous avez la Madone d'Orléans, qui est un des autres chefs-d'œuvre de Chantilly, qui s'appelle Madone d'Orléans parce qu'avant la Révolution, ce chef-d'œuvre appartenait à la famille d'Orléans, donc les cousins des rois de France. Ce chef-d'œuvre a été vendu pendant la Révolution par Philippe Égalité, le cousin Louis XVI, qui a voté la mort de Louis XVI. Ce Philippe Égalité étant le grand-père du duc d'Aumale. Et donc le duc d'Aumale va racheter ce chef-d'œuvre parce qu'il appartenait à sa famille avant la Révolution. Et donc vous avez une petite vierge, là aussi pas très grande, qui date des années 1508 à peu près, donc lorsque Raphaël est à Florence. Et vous avez une petite vierge très maternelle qui regarde son enfant, qui tient très délicatement le pied de l'enfant Jésus. Un enfant Jésus assez sculptural, et on voit là que Raphaël regarde Michel-Ange, il regarde les sculptures de Michel-Ange, et cet enfant Jésus, il nous regarde. En fait, qu'est-ce que c'est? En fait, il sait, nous et lui savons, quelle va être sa destinée, qu'il va connaître la passion, qu'il va être crucifié, qu'il va aussi ressusciter, contrairement à la Vierge, qui n'est pas encore consciente de tout cela. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez quelque chose de, voilà, empli d'amour maternel, aussi quelque chose d'assez grave, solennel, mais aussi quelque chose de, qui est très harmonieux avec les trois couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu, le tout dans une scène, dans un intérieur fermé, une sorte de scène de genre qui est assez atypique et qui, en fait, qui est très flamand. Est-ce que vous voyez ici cette petite scène de genre, pardon, avec ces petits pots, en fait, c'est très flamand. Et là, vous avez un tableau de Van Eyck qui date du, des années 1430-1440. Vous avez Saint-Jérôme dans son, dans son cabinet, où vous avez les mêmes pots ici. Et notamment ce pot-là, vous avez Tiriana. Tiriana, c'est le remède pour, contre la morsure du serpent. Le serpent, c'est le mal, c'est le péché originel. Et en fait, ce pot, vous le retrouvez chez Raphaël. Il est là. Et donc, en fait, c'est le Christ qui est le remède contre le serpent, contre le mal. Et en plus, ce pot, au-dessus, vous avez quoi ? Vous avez eu la pomme d'Ève, la pomme du péché originel. Donc, en fait, c'est le Christ. Enfin, Raphaël nous dit, par cette nature morte, en fait, qui est tout sauf anodine, nous dit que le Christ est le remède contre le mal et contre le péché originel, et qu'il va racheter le péché originel. Ce qui est intéressant, c'est que ce tableau, en fait, il faisait partie des collections de Laurent le Magnifique à Florence. Et donc, Raphaël a pu le voir et s'en inspirer lorsqu'il a peint la Madone d'Orléans. Donc là, vous avez un agrandissement de ce point. Alors, au même moment, il peint d'autres Madones, notamment la Madone Bridgewater qu'on a vue tout à l'heure, que le duc d'Aumale avait vue, qui est aujourd'hui à Édimbourg. Et vous avez le même, cette relation très proche avec la Vierge qui tient son enfant. Et puis un enfant sculptural, pardon, excusez-moi, vraiment dans la lignée de Michel-Ange. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Raphaël rend hommage à un autre artiste dans cette œuvre, c'est Léonard de Vinci. Vous avez la Madone, pardon, la Sainte Anne qui est aujourd'hui au Louvre, avec cette relation très maternelle entre le Christ et l'enfant. Et puis regardez surtout cette partie-là, ce drapé, et en fait on le retrouve ici, enfin vous le devinez, on le retrouve ici chez Raphaël. Donc vous voyez, il s'inspire de l'art flamand, il s'inspire de Michel-Ange, il s'inspire de Léonard pour créer quelque chose qui lui est vraiment propre, et il va se faire une spécialité de ces Madones. Ici vous avez la belle jardinière qui est toujours du Louvre, avec, vous voyez, toujours les mêmes couleurs primaires, hein, cette même relation très maternelle, ou alors la Madone à Prairie qui est à Vienne, avec ici quelque chose qui rappelle aussi la Madone d'Orléans de Chantilly. Autre dessin de ces mêmes années, qui est aujourd'hui à Chantilly, c'est là, justement, un dessin préparatoire pour la belle jardinière. C'est un dessin qui a été un peu contesté. On a parfois dit que c'était un élève de Raphaël, que c'était Timoteo Viti qui l'aurait dessiné. Parce qu'en fait, c'est un dessin qui est parfois un peu sec, mais en fait, ça s'explique, c'est qu'au XIXe siècle, on l'a passé un peu à la Javel. Donc ça, pour le blanchir, en fait, hein, c'est une technique, il y a certains marchands qui l'utilisent encore. Donc pour avoir ce côté un peu immaculé, là, parce que en fait, il était piqué, hein, par l'humidité. Mais en fait, on est face vraiment à un des chefs-d'œuvre de Raphaël. Je vais vous montrer pourquoi. Déjà, c'est un dessin qui est préparatoire à un tableau. Je vous l'ai montré tout à l'heure. On y revient. La belle jardinière du Louvre, qui date de ces années florentines de Raphaël. C'est un tableau pour lequel on a des dessins préparatoires. Ici, un dessin qui est à Oxford. Où vous avez le petit Christ dont on voit les prémices, hein, avec le travail sur les pieds, sur la figure. On a un autre dessin préparatoire qui est au Louvre, beaucoup plus abouti, qui est mis au carreau comme ça. Ça permettait de reporter un dessin sur un autre en respectant les proportions. Et c'est un dessin qui est juste avant le dessin de Chantilly, parce que vous avez une Vierge qui a encore les jambes nues. Ça, c'est assez systématique. En fait, Raphaël, c'est un perfectionniste. Pour créer un tableau, il va créer plein de dessins préparatoires. D'abord, des premières esquisses, ensuite des détails, ensuite, comme ici, des compositions globales, mais qu'il ne va pas forcément habiller. Ensuite, il va les rhabiller, et puis ça va aller jusqu'au carton. Ici, vous avez un dessin assez avancé, hein, où la composition globale est quasiment aboutie, sauf que finalement, la Vierge regardera non pas le petit Saint-Jean, mais l'enfant Jésus. Vous n'avez pas encore de paysage, comme sur le dessin de Chantilly. Et puis après le dessin de Chantilly, il y a le carton final. Hein, maintenant, vous savez parfaitement ce que c'est, le carton. Et on voit déjà la composition terminée. Autre dessin qui est à Chantilly, qui date de ces mêmes années, Florentine, 1508-1510, c'est la Vierge d'Humilité, où vous avez cette jambe déployée qui fait penser à cette jambe déployée aussi, ou là, hein, c'est ici la Madone du Belvédère des mêmes années. Et puis ce qui est intéressant ici, c'est la technique. On n'est plus du tout dans de l'encre ou dans de la pierre noire. Ici, justement, c'est un lavis d'encre, et c'est un lavis, c'est-à-dire que on est vraiment dans des aplats d'encre pour travailler les jeux d'ombre et de lumière. Et ça fait partie aussi du processus créatif, c'est-à-dire que Raphaël, lorsqu'il a choisi sa composition, décidé de sa composition, il va travailler sur la lumière. Et donc ça passe par cette technique de la vie que vous voyez ici. Alors c'est un dessin qui est un peu abîmé, hein, vous devinez, parce que c'est très fragile, ce la vie, mais on voit que voilà, c'est éclairé sur la gauche, il travaille profondément les ombres, etc. Et vous avez d'autres dessins au lavis de ces mêmes années, par exemple celui que vous avez ici au Louvre. Et puis, voilà, je vous ai mis ces deux tableaux parce qu'on est vraiment dans les mêmes, dans la même veine, les mêmes années. Et puis, cette jambe déployée, on la retrouve un peu plus tardivement. Ici, c'est la Madone d'Albe qui date des années romaines de Raphaël. Et vous voyez que ces motifs pouvaient être pris d'une composition à l'autre, d'un tableau à l'autre, mais qu'à chaque fois, il essaye de se réinventer. Des dessins qui sont préparatoires à un tableau qui date de la transition entre les années florentines de Raphaël et ses années romaines. C'est un dessin recto-verso que vous voyez ici, avec deux techniques différentes. Ici, c'est de la plume et l'encre, et là, c'est de la pierre noire avec des rods de craie. Ici, une femme en train de prier, d'implorer le ciel, et puis là, une sorte d'homme très simple. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'artiste en train de créer. C'est-à-dire qu'en fait, pour décider de sa composition, il fait aller sa main. En fait, il a une sorte d'intelligence de cerveau dans la main. Il dessine, il fait ses gestes un peu répétitifs. Par exemple, là, vous avez plein de petits traits circulaires et ça finit par former les mains jointes. Et puis là, par contre, des traits très simples, très géométrique pour former le crâne. Et puis de l'autre côté, quelque chose de complètement différent, à la pierre noire, très aboutie, où on travaille plutôt les questions d'ombre et de lumière. Ce sont des dessins qui font penser, d'une part, à la Sainte Catherine, qui date de ces années-là, en 1508-1510, notamment cette orante, là, un dessin qui est au Louvre, mais surtout à une lapidation. Là, vous avez la lapidation de Saint-Étienne, qui est aujourd'hui à Vienne. Vous avez la même figure d'orante. En fait, la femme est devenue l'homme, ici. Ce qui est intéressant, c'est aussi dans ce dessin, c'est tous ces nus, là. En fait, on voit que Raphaël, à Florence, c'est la première fois à Florence qu'il voit et qu'il travaille le nu d'après l'Antique. Il va copier le David de Michel-Ange, mais aussi le nu vivant, hein, comme on a vu tout à l'heure avec les trois grâces. Et puis, en fait, ce dessin, il est préparatoire au retable Balioni, qui est à la Galerie Borghese de Rome. Et en fait, cette figure va devenir la figure de Marie-Madeleine. Cette figure-là, la petite tête, va préparer justement son visage. Et là, vous avez d'autres dessins. En fait, on voit que le dessin de Chantilly, c'est la première idée, mais qu'ensuite, il va complètement travailler sa composition. Ici, des dessins qui sont à Oxford ou à Londres. Et puis là, le dessin quasiment abouti qui est au Louvre. Vous voyez, ça, c'est un chef-d'œuvre absolu du dessin de la Renaissance. Hein. Le travail de la lumière, il y a de l'espace, il y a de l'air qui traverse... Qui circule entre les personnages, les proportions, la composition, le travail du modelé, de la musculature, le sentiment aussi, le sort de pathos qui se transmet entre les personnages. Voilà, ça c'est encore mieux qu'un tableau. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que cette figure, donc le verso du dessin de Chantilly, en fait, on va la retrouver ici. Il va l'utiliser pour le porteur du corps du Christ, qui est sans doute Nicodème. Ici, c'est justement un dessin préparatoire juste avant celui du Louvre, qui est aujourd'hui ici à Florence, où les figures ne sont pas encore tout à fait habillées, et on travaille justement le mouvement des corps, des muscles et des muscles tendus. Et ce visage, en fait, il ne vient pas nulle part, là aussi. Donc ce visage qui est ici à Chantilly, qui a été réutilisé ici à Florence pour le tableau de Rome, hein, vous me suivez. En fait, ce visage, c'est le visage du Laocoon. Le Laocoon, c'est le grand antique qui a été découvert au début du XVIe siècle, acheté par le pape Jules II au Vatican et qui a inspiré tous les grands artistes. Et donc là, ces yeux tombants, ce cou très fort, la bouche là aussi tombante, entrouverte, fait vraiment penser au Laocoon, tout comme la position du visage. Il y a un autre antique qui peut se rapporter au dessin de Chantilly, c'est le Gaulois mourant, dont on conserve plusieurs exemplaires, notamment ici à Venise. Donc vous voyez que il s'inspire évidemment, on est à la Renaissance, de toutes ces sources antiques. Mais l'étoile montante de la Renaissance italienne ne pouvait pas se cantonner à Florence. Il devait nécessairement briller sous les feux pontificaux. Et donc, le pape Jules II, qui a beaucoup d'ambition, va l'appeler à Rome. Va l'appeler à Rome pour le grand chantier du moment, c'est celui des appartements du pape, ces appartements privés qu'on va appeler les chambres du Vatican, où Raphaël va livrer ses compositions les plus impressionnantes. Chantilly a la chance d'avoir l'un des plus beaux dessins de Raphaël, c'est l'étude pour la dispute du Saint-Sacrement. C'est un dessin qui a un très beau pédigré, qui a appartenu à la collection Mariette au XVIIIe siècle, etc. D'ailleurs, c'était le dessin qui a fait le plus cher dans la vente de la collection Mariette. Donc un dessin célèbre depuis très très longtemps. Et ici, vous avez un dessin préparatoire pour cette fresque, la dispute du Saint-Sacrement, qui est la première fresque peinte par Raphaël au Vatican. C'est sa première fresque, et c'est là où il va concentrer tous ses soins, et c'est la fresque qui va donner naissance à le plus de dessins, de la part de Raphaël, le plus de dessins conservés. Alors, la chambre dispute, alors c'est la dispute sur le Saint-Sacrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous avez le Saint-Sacrement, et vous avez des ecclésiastiques, des clercs, les pères de l'Église, qui sont en train d'avoir une sorte de dispute théologique sous l'égide du Christ, de la Vierge, de Saint-Jean et des saints. Donc c'est assez compliqué, c'est-à-dire de rendre en image une dispute théologique, donc c'est pas très simple, et le faire de manière dynamique, de manière intelligible. Et donc Raphaël va beaucoup réfléchir à cette composition. Cette fresque, elle est dans la chambre de la signature, qui est peut-être la chambre la plus célèbre du Vatican, où se trouve une autre composition célèbre de Raphaël, c'est l'école d'Athènes. En fait, elle se trouve en face. Donc là, vous avez l'école d'Athènes, et puis si on se retourne de l'autre côté, vous avez ici la dispute sur le Saint-Sacrement. Alors, si on retourne au dessin de Chantilly, c'est un dessin au lavis, hein, donc, comme tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un dessin où Raphaël travaille sur la lumière. Là aussi, une lumière qui vient de gauche, en haut à gauche, qui éclaire le crâne de tous ces religieux, tonsurés d'ailleurs, hein, Et vous avez deux groupes qui se partagent. En fait, le Saint-Sacrement devait être au milieu. Ici, il ne fait pas l'objet de ce dessin préparatoire. Deux groupes, vous avez quatre personnages principaux, une, deux, trois et quatre. Là, on reconnaît Saint Jérôme, les autres pères de l'Église ne sont pas forcément identifiables. Et puis ici, vous avez Dante. Donc plusieurs personnages qui ne sont pas forcément connus, qui sont en train de discuter de la problématique de l'Eucharistie. Et ce qui est intéressant, c'est tous ces jeux de regard. En fait, on voit qu'il y a une animation entre tous ces personnages, des personnages un peu voûtés, un peu curieux, entre guillemets. Et en fait, il y a une grande dynamisme, il y a un travail de la lumière, c'est assez élaboré. Et en fait, Raphaël, dans ce dessin, rend hommage à nouveau à Léonard de Vinci, et notamment son Adoration des Marges, qui est beaucoup plus précoce. Et en fait, on retrouve certains personnages ici, agenouillés, chez Raphaël. Donc ces mages ici, on les retrouve chez Raphaël. C'est d'ailleurs une technique un peu similaire qu'on trouve de part et d'autre. Il y a un autre artiste qui a inspiré Raphaël dans son dessin, c'est Fra Bartolomeo, un artiste qui était à Florence, et notamment le jugement dernier de Fra Bartolomeo, où vous voyez ces mêmes scènes un peu animées ici, sous l'égide des saints, qu'on retrouve dans la fresque du Vatican. On pense aussi au jugement dernier de Pérouse, qui date des années vraiment début 1500, donc quasiment 10 ans plus tôt, dû au Pérugin et à Raphaël, où on trouve la même assemblée céleste au-dessus des saints. D'autres dessins préparatoires, un peu dans la suite de celui de Chantilly. Ici, vous avez la partie du bas, justement, qui était concerné par le dessin de Chantilly, et puis celle du haut, ça c'est un dessin qui est à Windsor, dans la collection de la Reine, et puis là, un autre dessin qui est à Oxford, vraiment pour la partie du haut, celui de Chantilly, et puis là, vous avez un dessin qui suit celui de Chantilly, justement, où on travaille là plutôt la position des corps et non pas la lumière. Raphaël, si vous comparez le dessin de Chantilly et la fresque, vous avez vu qu'il y a beaucoup de différences. En fait, voilà le dessin et voilà la fresque. En fait, on retrouve quasiment plus du tout les personnages. Il y a juste cette disposition en deux groupes. Et en fait, il a tellement réfléchi. Peut-être que le pape lui a donné d'autres instructions. Il va changer d'avis. Mais par contre, certains personnages qui sont sur le dessin de Chantilly vont se retrouver dans l'autre fresque célèbre de la chambre de la signature, l'école d'Athènes. Raphaël va continuer au Vatican. Il va avoir un grand atelier avec lui et il va travailler pour le pape suivant, qui est Léon X. Dans les années 1512, il va travailler à la chambre de l'incendie du bourg, que vous trouvez ici. Ici, vous avez l'incendie justement ce fameux incendie. Et puis là, vous avez une autre fresque qui montre le couronnement de Charlemagne. Vous avez Charlemagne ici et le pape Léon III. Et en fait, Charlemagne a pris les traits de François Ier, le roi de France, et le pape Léon III a pris les traits du pape Léon X. Et donc, on était là. On est après 1515, pardon, on est en 1516 ici. Et on est après le Concordat de Bologne, donc là où le roi de France et le pape se sont alliés, on crée une sorte de concordat, c'est-à-dire d'accord religieux. Et donc ça célèbre tout cela, cette fresque. Et ici, au premier plan, vous avez un porteur qui porte une table précieuse. C'était une sorte de cadeau pour le couronnement de Charlemagne, un porteur très sculptural. Et en fait, ce porteur est préparé par le dessin de Chantilly. C'est une superbe sanguine. Alors la sanguine, c'est une technique qui est utilisée par Raphaël vraiment dans ses années romaines, très tardivement. Et ça permet vraiment de travailler sur le modelé. C'est une technique qui permet aussi une grande douceur mais aussi qui permet, comme vous voyez ici, d'insister sur les contours. Hein, vous voyez là, notamment sur le genou. Donc c'est une technique, il faut être assez virtuose pour la manier, mais une technique qui permet beaucoup d'effets. Et donc là, vous avez le porteur de cette table, hein, qui est ici coupé, un porteur très sculptural, avec les pieds bien sur le sol. Sans doute, là, il y a peut-être un modèle antique, il a regardé Michel-Ange, évidemment, mais on a aussi un grand travail sur la musculature, sur le modelé, sur la lumière. Un des très beaux dessins de Raphaël, qui est comparable à un dessin qui est à Vienne pour la fresque de l'incendie du bourg, justement. Vous avez Aîné et Anquise, son père, qui s'échappe de l'incendie de Troyes. Et puis là, vous avez un autre dessin, toujours sur la sanguine, qui date de ces années-là, 1516 à peu près. Alors Raphaël, dans ces années romaines, ne travaille pas que pour le pape, il travaille aussi pour un grand commanditaire qui s'appelle Agostino Chigi, qui est le trésorier, le banquier du pape, qui est l'un des hommes les plus riches de Rome, et qui va commander et faire construire une villa dans le quartier du Trastevere, qui est la villa Farnésina. Et Raphaël va avoir pour tâche de décorer cette villa sur le thème des métamorphoses d'Ovid, avec le thème de l'histoire d'amour et psyché. Donc c'est une histoire mythologique assez plaisante, assez gracieuse, et en fait un peu dans l'idée de cette villa périurbaine, qui est une villa de plaisir, etc. Et donc vous avez ce dessin qui est un peu discuté entre Raphaël et son atelier. Vous avez des superbes drapés à l'antique, un peu mouillés. Par contre, vous avez des visages qui ne sont pas très réussis, mais parfois, sur certains dessins de Raphaël, les visages ne sont pas très réussis, parce qu'en fait, ce n'est pas les visages qui intéressent ici l'artiste, c'est plutôt les positions du corps et puis surtout le drapé, en fait. Ici, vous avez les trois heures, les allégories des heures qui couronnent le banquet d'amour et psyché. Et donc, regardez, 1, 2, 3, et vous les retrouvez ici, 1, 2 et 3, sur le plafond de la loggia de la Villa Farnésina, célébrant le banquet d'amour et psyché. Et donc, qui renvoie aux amours du commanditaire Agostino Chigi. Et donc, il y a un autre dessin assez célèbre, qui est là aussi peut-être l'un des dessins les plus beaux de Raphaël, préparatoire aux Trois Grâces que vous avez ici. C'est ce dessin qui est dans les collections de la Reine d'Angleterre. Le titre est fautif. Et là aussi, une très, très belle sanguine, très charnelle, quasiment érotique, hein, de Raphaël, en fait, qui donnait ici les dessins, et c'était son atelier qui peignait. Parce qu'en fait, Raphaël était débordé, il était chargé des décors du Vatican, il était chargé aussi des fouilles à Rome, il était chargé de l'architecture de Saint-Pierre de Rome, donc une sorte de chef d'orchestre débordé qui déléguait de plus en plus à son atelier. Et ça va être ici une de ses deux dernières œuvres, parce qu'il va mourir en 1520, un peu surmené. Ça va provoquer un nombre de chocs, hein, et son atelier va continuer son œuvre. C'est le cas de Giulio Romano, de Gianfrancesco Pegni, qui vont continuer son œuvre au Vatican, et puis qui vont ensuite disséminer sa leçon à Mantoue, à Gênes, à Naples, et évidemment à Rome. Alors, je vais finir sur un dernier dossier, qui est le dernier tableau de Raphaël à Chantilly, qui date de ces années romaines, justement. On est vers 1510-1512, et c'est un tableau qui s'appelle la Madone de Lorette. Je vais vous expliquer pourquoi. Et qu'en fait, il ne connaissait pas bien. Il pensait avoir acheté une copie. Et en fait, ce tableau a été authentifié seulement dans les années 1970 comme étant un autographe, une œuvre autographe de Raphaël. Souvent, c'est le contraire. Souvent, au XIXe siècle, on pense avoir des grands chefs-d'œuvre, et au XXe siècle, on a désattribué ces chefs-d'œuvre. Et là, c'est le contraire. Ce tableau était très sale, très sombre. Il était connu comme une copie, et en fait, dans les années 1970, notamment en 1979, il y a eu une onde de choc à Chantilly et dans le milieu de l'histoire de l'art. En fait, on avait affaire au chef-d'œuvre, à l'original de Raphaël. C'est une composition qui était très connue. En fait, on a 120 copies de ce tableau. Ici, vous avez un certain nombre de ces copies, plus ou moins belles, plus ou moins réussies. Et tout au long du 19e siècle et du 20e siècle, on a essayé de trouver l'original parmi ces copies. Et notamment, vous avez au Getty Museum de Los Angeles, vous aviez cette copie ici, qui est un peu vilaine, à vrai dire. Et en fait, Mr. Getty pensait avoir l'original. Bah oui, les Américains sont toujours meilleurs que les autres. Mais en fait, et il était conseillé par Longhi, enfin par des grands historiens d'art, notamment italiens, bon, qui avait aussi, qui était payé par Monsieur Getty, donc qui pouvait pas contredire le propriétaire, et qui disait non, c'est lui, c'est ce tableau qui était l'original. Et puis à Chantilly, on pensait avoir une copie. Et en fait, dans les années 1970, ce tableau donc, qui est ici, qui était très crasseux, hein, a été envoyé au Louvre. Et qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert notamment, vous voyez, là, vous avez un petit témoin de l'état avant restauration de ce tableau. Et on a découvert un petit numéro ici, 133. Et là, on va revenir sur l'histoire de ce tableau. Ce tableau, on savait que l'original du tableau de la Madone de Lorette avait été commandé pour l'église romaine de Santa Maria del Popolo, qu'il avait un pendant, ce pendant il est là, c'était le portrait du pape Jules II, qui est aujourd'hui à la Galerie de Londres, commandé tous les deux en même temps, et qu'ils étaient sortis pour les fêtes. On les mettait sur des piliers de l'église, et lors des grandes cérémonies, on les sortait. Et puis, à la fin du XVIe siècle, en 1591, vous avez un cardinal un peu véreux qui soudoie la fabrique de l'église et qui achète les deux tableaux. C'est le cardinal Sfrondato. Et ce cardinal Sfrondato donc, a les deux tableaux. À ce moment-là, il offre une copie en échange. Il donne aussi de l'argent, hein, évidemment. Et puis, il a ces deux tableaux dans sa collection. Et puis, on sait ensuite que dans les années 1630, ces deux tableaux sont dans la collection Borghese à Rome, grande collection très célèbre. Et que l'original dans l'inventaire Borghese, l'original de la Madone de Lorette, portait le numéro 133. Et on a l'inventaire où il est marqué 133, Raffaello, et la Madone avec le vélin, enfin le voile, etc. Le terme de Madone de Lorette date du XVIIIe siècle parce que la copie la plus célèbre de la Madone de Lorette était dans la Casa di Loreto, à Lorette, ce lieu de pèlerinage marial. Et donc cette copie était vénérée dans ce lieu de pèlerinage. Et donc c'était la copie la plus célèbre. Et donc on a appelé cette Madone la Madone de Lorette. Mais en fait, elle ne s'appelait pas à l'origine la Madone de Lorette. C'est une Madone à l'enfant, avec le Saint Joseph derrière. Et donc, quand on a restauré dans les années 70, on a découvert d'une part la grande qualité de ce tableau, je vais y revenir, et puis ce petit numéro 133, qui était le numéro authentifiant l'original de Chantilly. Alors là, vous avez des œuvres de Raphaël contemporaines, hein, avec ce travail sur l'enfant sculptural. Et puis là, je voulais revenir sur les analyses qu'on a menées à ce moment-là. Donc, vous avez ce petit numéro qu'on a retrouvé. Et puis, ce qui est intéressant, et ce qui montre que ce n'était pas une copie ici, c'est que vous avez ici le Saint-Joseph. En fait, il a été ajouté dans un second temps par Raphaël. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y avait la Vierge, l'enfant, un rideau et une petite percée vers une fenêtre. Et qu'ensuite, ce n'est que dans un second temps que Raphaël a rajouté le Saint-Joseph. Et dans toutes les autres copies, Saint-Joseph est dès le départ. Il n'a pas été rajouté dans un second temps. Donc là aussi, c'est un argument authentifiant le fait qu'on ait ici affaire à l'original de Raphaël. Ce qui est formidable aussi, c'est cette scène, ce petit Christ sculptural, on dirait qu'il est en train de gesticuler, il est en train d'attraper ce voile, il essaye de s'appuyer, il essaye de marcher en quelque sorte, de se lancer vers le linceul, et pour cause, parce qu'en fait ce voile c'est la préfiguration du linceul du Christ. En fait c'est la Vierge qui essaie de couvrir ce Christ, qui joue là aussi avec ce voile, mais qui préfigure ce linceul. Donc là aussi, vous êtes entre l'amour maternel, entre le jeu, entre la relation très proche et faite d'amour entre le Christ et sa mère, mais vous êtes aussi dans quelque chose d'assez tragique, c'est la préfiguration de sa mort. Donc quelque chose d'assez formidable, et c'est aussi une œuvre qui a été... qui est l'un des chefs-d'œuvre de Chantilly, mais qui est un chef-d'œuvre assez récent, parce que le duc d'Aumale, qui était finalement assez visionnaire, pensait n'avoir affaire qu'à une copie. Et je vous mets ici l'une des salles qu'il a aménagée pour ses Raphaël, pour ses deux Raphaël. Il pensait en avoir deux en tableau, il en a plein de dessins, hein. Je vous en ai montré que quelques-uns. Il pensait avoir que deux tableaux, il en a trois. Vous avez ici la Madone de Lorette, la Madone d'Orléans, les Trois Grâces, entourant un tableau de Cassone, c'est-à-dire de mariage, de Filippino Lippi et Botticelli. Et puis tout autour, vous avez 40 miniatures de Jean Fouquet, le grand maître du 15e siècle, dans ce que le duc d'Aumale appelait le santuario, le sanctuaire, c'est-à-dire une petite pièce octogonale comme cela, sans fenêtre, pour les petits chefs-d'œuvre, et qui sont chaque soir une sorte de liturgie, qui sont protégés de la lumière par les rideaux. En fait, vous avez un gardien qui chaque soir ferme les rideaux et chaque matin qui ouvre les rideaux pour que les chefs-d'œuvre puissent être admirés par les visiteurs de Chantilly, que vous allez être à partir du 7 mars. Du 7 mars jusqu'au 5 juillet, vous avez, chose que je ne vous ai pas dite, la seule exposition de Raphaël en France en 2020. Parce que toutes les autres expositions auront lieu à Rome, à Washington, à Londres. Et en France, vous n'avez que Chantilly qui célèbre le plus grand artiste de la Renaissance italienne. Je vous remercie de votre attention.